Hello à tous, ici Chloé et vous êtes bien dans Sac à dos sur Dynamic One. Hello à tous, hello mes petits explorateurs, vous êtes bien sur Dynamic One et aujourd'hui on va parler de quelque chose de plus particulier. C'est un épisode un peu spécial aujourd'hui parce qu'on va pas vous donner de conseils par rapport au voyage en sac à dos standard. On va plutôt parler avec deux très chers invités des voyages un peu insolites parce qu'ils sont lancés plein de défis. Vous allez apprendre à les connaître en même temps que moi. En tout cas, moi j'ai hâte et aujourd'hui je suis avec Igor et Mike. Comment ça va les gars?
Ça va et toi?
Très bien. Et toi?
Ça va super bien.
Comment dis-toi, ton prénom c'est Michael ou Michael?
Michael.
Ok, Michael. Je peux t'appeler Mike?
Ouais.
Ok, je vais être contente. Alors, aujourd'hui, comme j'ai dit, on va parler des voyages insolites. Et j'aimerais d'abord vous demander de vous présenter dans la langue du pays de votre choix. Igor, dans quelle langue tu veux te présenter?
En espagnol.
Ok, je t'écoute.
S'il te plaît. Hola, mi nombre es Igor, tengo 21 años y estoy muy feliz de estar aquí con ustedes.
Ah, gracias. À toi, Mike.
Donc moi, j'aimerais présenter en hindou. Namaste. Namaste. Mera nam Michael hai. Mujhe al marid karne ke le dhanyavad.
J'ai l'impression que tu t'es donné pour l'accent aussi, non là?
J'ai travaillé pendant très 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 longtemps cette phrase-ci. Et le résultat est
bluffant. Le résultat est incroyable, la première prise est parfaite. Bah, enchanté les gars, je suis très contente de vous avoir en studio aujourd'hui. Racontez-moi un petit peu votre rapport au voyage. Vas-y
bah,
Mike.
Bah, on a commencé à voyager quand on avait 17 ans environ. Et ça a toujours été quelque chose pour échapper un peu à la rigidité du quotidien. Et ouais, vraiment un appel vers la liberté. Et l'autonomie aussi, et le fait de grandir.
Ouais, c'est beau.
Voilà, c'est trop cool.
Et toi, Igor, qu'est-ce que t'en penses?
Je suis complètement d'accord avec lui. Ça a toujours été un petit peu une recherche d'aventure, de choses à vivre et d'histoires à raconter par après. Et puis, on a souvent un intérêt un petit peu altruiste, si je peux dire. On aime bien lier nos aventures à des causes, etc.
Justement, ça, on va en parler. Hein. On va en parler pendant tout l'épisode que vous voyagez pour plein de causes. J'ai cru voir ça, mais je me suis laissé la surprise pour le jour où vous allez m'en parler. Je vais vous expliquer d'abord un peu le petit programme. Donc, on va parler de tout ce dont tout ce qui colle à vos aventures. Ensuite, on va écouter vos petites musiques. Parce que la petite tradition pour ceux qui nous rejoignent, c'est d'écouter les musiques de voyage. On a toujours une petite musique qui nous fait penser à nos voyages. On va faire un petit jeu aussi.
Oh.
Ouais. Et voilà, ben on est tranquille, on est entre nous et on discute. Alors, j'aimerais bien que vous me racontiez un peu les débuts de votre duo en fait.
Ah là là, les débuts de notre duo,
ça date. Ouais. Hein.
Ça a commencé sur les bancs de la 3e J au Collège Cardinal Mercier.
Ouais.
On est tombé dans une classe où on connaissait tous les deux personnes et on voyait à peu près qui on était. Moi, je pensais qu'il s'appelait Nigel à l'époque.
Pourquoi?
Je sais pas, il s'appelle Michael, Nigel.
Ok.
C'est vite fait.
Quoi?
C'est vite fait.
C'est vite fait. Et du coup, on s'est mis assis l'un à côté de l'autre, on a commencé à parler et on est très vite devenus inséparables.
Oh, c'est beau, c'est la déclaration.
C'est très mignon.
C'est vrai en plus.
Ouais. Depuis, on s'est jamais lâché.
Oh, j'adore.
Et très vite, au final, dans la dynamique de notre duo, mais aussi avec nos potes les plus proches, on a eu envie de voyager et de partir à l'aventure. Au début, c'était des voyages en stop, surtout.
Ouais.
Et puis après ça, on a essayé de se diversifier avec du kayak, etc.
Et où est-ce que vous faisiez ça, vos voyages en stop?
Dans un premier temps, c'était en France.
Ouais.
Donc on est parti de Waterloo, où on habite, pour rejoindre les Gorges du Verdon.
Ah, waouh.
L'année d'après, on a voulu faire la même chose, mais avec du bateau stop. Mais on s'est jamais fait prendre, du coup.
What?
On a pris un ferry pour rejoindre la Corse. Et après ça, on est parti en canoë en Suède, et puis on a fait la Belgique en kayak.
Vous avez fait la Belgique en kayak? Racontez-moi un peu ça.
Donc c'est parti pendant le confinement. On cherchait en fait des idées de vacances, et le kayak a été énoncé dans une discussion Messenger. Et on a juste commencé à chercher sur deuxième main en fait. Et puis j'ai trouvé 5 kayaks à vendre pour un prix ridicule, c'est genre 200 balles.
What?
Et
ouais.
On a été les chercher, et puis c'était parti quoi. On a fondé un projet, on a associé ça à une cause. Donc on a décidé de soutenir le WWF,
ouais.
Dans la conservation de la nature en Belgique spécifiquement. Parce que c'est aussi le but de l'aventure, c'est un peu de trouver la Belgique cachée. Un peu celle qu'on voit pas spécialement depuis notre quotidien. Et donc en même temps, on trouvait ça cohérent de lier un projet de conservation à la nature qu'on souhaitait découvrir. Quoi.
Et c'était quoi en fait le principe? Comment les gens ils pouvaient aider? En fait, vous montriez sur les réseaux, comment ça fonctionnait?
Ouais, tout à fait. Donc on avait une page sur Facebook, une page sur Insta, et on avait un Tipeee, donc un Tipeee, je pense.
Ouais, c'est ça. Une plateforme pour recevoir des dons, etc.
Ah, oh, et ça a bien fonctionné?
Ouais, quand même. Je crois qu'on a récolté presque 2000 euros.
Oh, génial. WWF. Et ça vous a pris combien de temps? Il y avait combien de kilomètres?
Oh, m'en parle pas.
trop de kilomètres.
Ah ouais?
Non.
Comment était l'expérience?
Non, ouais.
Ah, j'ai envie de tout savoir.
C'était, au total, je pense que c'était 400 kilomètres environ.
Oh mon Dieu. Ouais, ça fait mal dans les bras.
Ça fait mal dans les bras et dans la tête. Mm. Qu'on a réparti sur 21 jours. Après, on a eu des soucis aussi parce qu'on est passé par des zones qui n'étaient pas légalement accessibles en kayak.
Ouais.
Et donc, donc on a dû un petit peu court-circuiter à un moment notre parcours pour éviter d'avoir trop d'embrouilles avec les forces de l'ordre.
Waouh.
Enfin, avec la brigade fluviale, hein, c'est pas FBI non plus, mais...
Ouais, parce que vous deviez demander des autorisations, en fait.
Normalement, ouais.
Ok. Et pourquoi vous l'avez pas fait? L'aventure. Le risque.
Par-ci, par-là. Mais en fait, ça s'est décidé vraiment sur une très courte période, ce voyage. Comme Mike a dit, c'était en plein confinement. On savait qu'on voulait partir. On savait pas trop comment ni pourquoi. Et je pense, en 3 jours, on s'est dit, ok, on part. Mike a trouvé les kayaks. Wow. Et on était sur l'eau quasiment direct.
Est-ce que c'est le confinement qui a fait que vous avez décidé la Belgique comme destination?
Ouais. Ouais, clairement. Et au final, c'était un très bon choix. Sans le confinement, on aurait peut-être décidé de partir à un endroit plus exotique en Europe, mm-hmm. ou quoi que ce soit. Mais au final, on est tous vraiment contents d'être restés en Belgique et d'avoir, comme Mike a dit, découvert la Belgique sous un œil complètement nouveau, quoi.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez découvert?
Mais déjà, le contraste entre les différentes régions simplement de la Belgique, on n'a pas spécialement conscience que la nature varie autant de, mm-hmm. de coin en coin. Ouais, aussi l'architecture des villes, etc. C'est quelque chose dont on a une idée, mais quand on le voit dans 21 jours avec les conditions vraiment coup de pagaie par coup de pagaie, là ça devient vraiment flagrant, quoi. Ouais, on a moi personnellement, je suis passé par des villes que je connaissais de nom,
ouais.
Mais que j'avais jamais été, et qui sont simplement des exemples magnifiques de ce que la Belgique a à offrir en termes de patrimoine.
Et comme où, par exemple?
Mais je pense à Mons, je pense à Charles,
ah ouais,
Charleroi, mine de rien.
Ah oui?
C'était, honnêtement, c'était quelque chose, hein. On va pas dire... on va pas mentir, mais c'était un truc de fou.
Je m'en souviendrai, je trouve ça génial.
Je m'en souviendrai toute ma vie, c'était trop bien. Et puis Bruges-Gand, c'est magnifique aussi.
Ouais, ça, c'est magnifique, c'est indéniable. Et comment c'était mentalement? Ah ouais, je sens le vécu là, je sens qu'il y a des choses à dire.
Il y a eu des moments de down, il y a eu des moments de très très high. Non mais en vrai, mentalement, on rentre vite dans une sorte de routine. Donc je dirais que c'est les...
Mais c'était quoi votre routine en fait?
Notre routine, c'était on se lève, on défait le camp parce qu'on dormait sous tente ou dans des hamacs.
Ouais.
On défait le camp, on charge les kayaks avec toutes nos affaires, ça nous prenait quand même pas mal de temps. On mettait les kayaks à l'eau et puis on partait pagayer pour une vingtaine de kilomètres par jour. Et souvent, en fait, ce qui nous stoppait, c'était les écluses qu'on n'avait pas le droit de passer par nous-mêmes.
Ah ouais.
Et du coup, il fallait porter les kayaks, les sortir de l'eau, etc. Et toutes ces techniques, on les a développées sur le coup, quoi, parce qu'on n'avait jamais pensé à tout ça. Heureusement, on a trouvé des cordes. À un moment, on a trouvé une sorte de harpon, etc., qui nous ont été super utiles. Mais sans ça, je ne sais pas comment on aurait fait, quoi.
Et vous étiez les premiers à faire ça?
Il y a un homme avant nous qui l'a fait,
ouais.
Un aventurier belge, dont j'ai oublié le nom.
Louis-Philippe Long.
Louis-Philippe Long, qui l'a fait... mais sur une période de plusieurs mois où il ne faisait que le week-end.
Ok, donc vous avez quand même révolutionné le truc, quoi.
On a révolutionné le monde du kayak en Belgique.
Ah, j'ai des stars avec moi. Et 21
rien.
Jours, c'est ce que vous aviez en tête ou vous l'avez vraiment fait au feeling? Vous ne saviez pas quand vous alliez arriver?
C'était ce qu'on avait en tête. Je ne sais pas si finalement on a fait 21 jours tout pile. On a fait un peu moins, je pense.
Il me semble que c'était 21. Je crois qu'on avait prévu une tranche d'entre 20 et 26 jours.
Ouais, c'est ça.
Et qu'on est arrivé à ce moment-là.
Et qu'est-ce que vous retenez de ce challenge?
Mais personnellement, ce que je retiens, c'est la force que tu tires de la difficulté. En fait, quand le monde autour de toi devient ingérable et impossible, bah, tu t'adaptes et tu fais ce qu'il faut. Enfin, impossible, on s'entend. Il y a des trucs beaucoup plus durs, etc. Mais juste, je nous ai vus nous endurcir et nous adapter à un effort, à une quête, et, pour au final y arriver, ce qui était génial.
Et qu'au final, vous êtes capable de tout.
C'est vrai. Mais il y a un truc qui nous a vraiment aidé dans ce voyage, c'est le fait qu'on avait des gens derrière nous. Et ce système de donation pour l'association, ouais. On savait qu'on le faisait pas pour rien.
C'est super motivant.
C'est super motivant. Et sans ça, je pense qu'on aurait arrêté très vite. Parce qu'au final, tu es en vacances avec tes potes. Tu veux faire un truc un peu aventureux. Mais il y a des moments où c'était vraiment pas marrant du tout. Mmh. Et si on n'avait pas un peu cette... je vais pas dire couverture médiatique. Mais on savait qu'il y avait des gens qui étaient derrière nous, qui nous soutenaient. On recevait des messages, etc. Et la question d'abandonner se posait même plus, quoi.
Mais je vois ton petit sourire, Mike, quand Igor dit que vous êtes passé par des moments difficiles. C'était quoi ?
Ouais. Il y avait un moment particulièrement difficile où concrètement, je me suis retourné avec mon kayak. Dans
oh, le stress !
En plus, c'était un peu la tempête et tout, c'était chiant.
C'était une méga tempête, mec.
C'est à quelle période de l'année ?
L'été ?
Ouais, ah,
l'été,
ok. Clairement.
C'est okay. En été que les vents les plus forts soufflent sur la Meuse.
C'était en quelle année, en fait ?
C'était il y a 2 ans,
2020.
En 2020, ouais.
Je sais plus, on avait eu un bel été hein, cet été-là.
Ouais, c'était pas mal.
C'était la tempête.
Et du coup, c'était la tempête, tu t'es retourné.
Et mon kayak était plein de flotte et je le tirais quand même un peu à la nage. Il y avait toutes mes affaires dedans, quoi.
Oh, l'angoisse.
Total. Et ouais, donc j'ai essayé de le sortir une fois, ça marchait pas. Enfin, bien sûr, tout était trempé, le kayak était vraiment rempli d'eau, donc il coulait à moitié. Et c'était terrible.
Ouais, il pesait une tonne, quoi, parce que c'était des très vieux kayaks. Pour 50€ pièce, ouais. Tu te doutes que c'est vraiment des vieux bails. Et ouais, rempli d'eau, ça pesait une centaine de kilos.
Et comment vous avez fait alors ?
Ben, on a essayé de tirer avec une caisse, avec une corde et tout, mais c'était impossible de trouver une corde qui pouvait tirer autant. Et du coup, on l'a traîné le long de la digue. Il y a des grosses digues en béton le long de la Meuse. Et jusqu'à un endroit où les péniches étaient mises à l'eau. Et du coup là c'était un peu plus ballonné. On a pu la tirer de là et tout était mouillé. C'était
horrible. Mais vous êtes des grands malades hein.
J'ai dû sécher tout autour d'un feu. J'ai brûlé mon sac de couchage et tout.
C'est toute notre bouffe. Quasiment toute notre bouffe y est passée aussi. Et comme il disait, on a eu la chance en fait. Enfin, il a eu la chance de faire naufrage à côté d'une sorte de gros chantier naval. Et du coup, on a été demandé à des ouvriers s'ils savaient pas nous aider pour sortir le kayak hors de l'eau. Et ils avaient leur camionnette, leur grosse corde,
génial.
Etc. Mais malheureusement,
il y a souvent de la
pu,
chance
quoi.
Dans le malheur. Hein. Là, de la chance à la... Ah non, je vois encore Mike qui rigole.
Là, du coup, c'était pas possible. Et ouais, on a essayé. Ouais. Ils ont pas réussi à nous aider, quoi. À la fin, ils nous ont dit, les gars, je dois retourner travailler, quoi. Salut.
Les cordes cassaient systématiquement. Le kayak était tellement lourd que même une camionnette n'arrivait pas à le hisser en haut du dock.
Waouh. Oh, mais punaise. Mais quelle idée de faire ça. En vrai, c'est génial. Après, vous avez des histoires incroyables, quoi.
Ouais.
Et des souvenirs plein la tête.
Ouais. Ce qui est fou, c'est, je sais pas si tu te souviens, mais ce soir-là, du coup, on s'est terré dans les bois pour faire un feu, sécher tes affaires, etc. Ouais. Et à ce moment, il y a la directrice du WWF Belgique qui nous a appelés pour nous dire qu'elle avait entendu parler du projet, qu'ils avaient envie de nous rencontrer, etc.
Ah, c'est eux qui vous ont contacté.
De base, on avait lancé le projet de nous-mêmes sans leur dire « Ah, on va faire une récolte de fonds pour vous ».
Génial.
Et via les réseaux, etc., ils ont entendu parler de nous. Et donc là, c'était de nouveau un énorme coup de motivation.
Ah, évidemment. J'imagine sur les réseaux sociaux, on vous suivait aussi. Vos amis, vos proches.
Ouais, c'est clair. Et c'était super motivant.
Vous devez avoir une belle motivation. Bon, eh bien, on a bien parlé de ce projet kayak, mais vous avez encore plein de choses à dire et on a malheureusement pas beaucoup de temps. Donc, on va parler de tout ça après. Juste la petite musique de Mike. Mmh. Quelle est la musique que tu as choisie ?
Donc, cette musique, c'est un genre musical surtout qui est très populaire au Népal. Ça s'écoute beaucoup dans les bus, dans les lieux publics, les jeunes écoutent ça. Et c'est une sorte de mise en scène. Souvent, il y a un clip qui vient avec.
Ouais, j'ai vu. Incroyable.
C'est un peu une conversation, une sorte de duet entre un gars et une fille. Et c'est très, 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 très kitsch. Mais les gens là-bas ont l'air d'adorer ça. Et franchement, c'est vachement marrant. Et c'est ambiançant, en vrai.
Est-ce que tu l'écoutes encore ici, du coup, en Belgique ?
Non. En vrai. Je devrais peut-être, mais...
Mais du coup, on va te rappeler des souvenirs, là.
Ouais, c'est clair.
J'ai hâte de voir.
Koyota jale rumal full bhareko chaina.
Dans la deuxième partie de cet épisode sur les voyages insolites, on parlera un peu de développement personnel et d'introspection. Ce sont des facteurs qui occupent souvent une grande partie de nos voyages. Et ensuite, nos deux invités nous partageront également leurs expériences de voyage en sac à dos. Alors restez bien avec nous et laissez-vous bercer par les douces histoires de nos chers aventuriers. On va revenir sur le sujet du sac à dos. Vous avez aussi voyagé en sac à dos. Où est-ce que vous avez été, Igor ?
Moi, j'ai été au Pérou et en Bolivie quand j'avais 18 ans.
Quand t'avais 18 ans ?
Ouais, juste après ma réto, en fait.
Et t'es parti tout seul, comme ça, avec ton sac à dos, ou t'avais une organisation derrière toi ?
J'ai fait un peu des deux, en fait. Avant de faire Pérou-Bolivie, j'ai été en Afrique du Sud.
Ouais.
Dans une structure de volontariat en biologie marine pour travailler avec les requins, etc. Parce
okay.
que je fais des études de biologie et je savais que j'avais envie de,
faire ça,
de me diriger vers là-bas. Et puis je suis parti au Pérou là en backpack complètement, mais j'ai quand même travaillé pendant 5 semaines dans une réserve en Amazonie, aussi avec des biologistes. Et puis j'ai continué en Bolivie au backpack tout seul.
Et comment t'as vécu cette expérience ?
Ah, c'était incroyable. J'ai adoré. C'était la première fois que je vivais une aventure vraiment tout seul par moi-même. On avait déjà un peu d'expérience avec Mike et nos autres potes de par nos voyages en stop. Mais là, c'était tellement enrichissant. Et puis aussi cet aspect de toucher un peu à son rêve. Moi, j'avais toujours rêvé de partir dans la jungle, de travailler avec les animaux, etc.
Waouh.
Et ouais, je me suis bien retrouvé là-dedans. C'était
en
cool.
Plus, aussi tôt, quoi. 18 ans, je trouve ça tellement jeune.
Ouais, c'est vrai.
Et comment t'as fait ? Est-ce que tu fonctionnais au feeling ? Est-ce que t'avais un peu préparé ton trajet ?
Je fonctionnais beaucoup au feeling, en vrai. À part pour les dates où j'allais travailler dans les réserves, j'étais complètement au feeling et je faisais en fonction des rencontres que je faisais sur place. Les gens me disaient « Oh, mais tu devrais aller voir ça, c'est super beau.
Ouais. »
Ou « Est-ce que tu veux pas venir avec moi là-bas ?» Et donc, au fur et à mesure des rencontres et des discussions, mon itinéraire se traçait. Et je trouve que c'est une super chouette manière de voyager.
Et donc, est-ce que tu conseillerais à des jeunes de 18 ans de déjà partir ?
Ouais, carrément.
Ouais ?
Carrément, carrément. Évidemment, je pense que c'est peut-être pas pour tout le monde, ça dépend un peu du caractère. Mm-hmm. Il faut savoir qu'il y a des moments où on voyage seul pendant relativement longtemps, qu'il y a parfois la barrière de la langue et que c'est pas facile de se jeter comme ça, d'aller rencontrer des gens, de lancer des discussions alors qu'on les connaît pas du tout.
Ouais.
Mais c'est au niveau développement personnel, on apprend
c'est
tellement
incroyable.
De choses. Ouais. C'est quelque chose à faire dans sa vie nécessairement, je pense.
Surtout en plus, c'est l'âge où tu sais pas encore quoi faire de ta vie et je pense que c'est peut-être un bon bagage pour commencer la vie, quoi.
Ouais, carrément.
Toi, tu t'es senti changé en rentrant ?
Ouais, je me suis senti changé et surtout, j'étais relativement certain de la voie professionnelle que je voulais suivre. Alors qu'avant de partir, bah, j'avais mes rêves d'enfant, entre guillemets,
ouais.
Mais je savais pas si dans les faits, ça allait vraiment me plaire. Et au final, le fait de le vivre, ça m'a complètement déterminé dans ma quête.
Ah mais ça c'est super, c'est une magnifique première expérience.
C'est vrai.
Et toi Mike, on a parlé du Népal tout à l'heure, mais évidemment avec la musique qu'on vient d'entendre. Combien de temps t'es parti au Népal ?
Au Népal j'y ai passé 2 mois.
Et t'es parti tout seul ?
Ouais j'étais tout seul.
Avec ton sac à dos, comment ça s'est passé ?
Bah donc c'était une année sabbatique, hein, c'était l'an passé. Je suis parti au début un peu en Europe, j'ai un peu fait le tour de France, d'Espagne, etc. Merci. Et puis, ouais, j'avais ce projet d'aller en Inde, entre autres parce que c'est une terre qui est connue comme étant très spirituelle. Et
ouais.
J'avais envie de goûter un peu à ça, pour ce qui s'y cachait. Et donc voilà, j'ai été par là-bas. J'ai passé 1 mois en Inde et 2 mois au Népal par la suite. Et c'était incroyable.
Et qu'est-ce qui s'y cachait du coup au niveau spirituel ? Qu'est-ce que tu as découvert ?
Alors, ben, en fait, c'est quelque chose de... Souvent, c'est ça, quand tu cherches un truc et tu te rends compte que le truc spirituel que tu cherchais est en fait terriblement simple.
Ouais.
Il faut juste le comprendre et l'intégrer et en faire quelque chose à soi. Et c'est de petits trucs comme ça, je pourrais les dire, mais c'est très bateau.
Vas-y, on aime bien tout ce qui est bateau ici.
Ouais, c'est que... ok.
Mais tous les gens qui partent en voyage, souvent, on part pour du développement personnel,
ouais,
etc. Donc t'inquiète que ça va parler à beaucoup de gens.
Ça, c'est vrai, bah... Déjà que tu peux pas être bien si tu fais du mal autour de toi. Ça,
ouais.
ça se comprend.
Mm-hmm.
Aussi que tu peux pas être bien si t'es pas libre.
Ouais.
Et tu peux pas être libre si t'es pas bien, ironiquement. C'est pour ça que c'est un petit peu difficile, mais par moments. Et que tout le travail que tu fournis pour toi, s'il est bien intentionné, va au final t'être tellement bénéfique.
Mm-hmm.
Juste investi dans toi-même et tu seras bien, quoi.
Au final, comment l'intégrer ? Parce que j'ai l'impression qu'on est beaucoup à savoir ça, mais on a du mal à l'intégrer.
Franchement, c'est pas facile. Y a pas de, c'est sûr qu'il n'y a pas de guide qui aille à tout le monde.
Mm-hmm.
C'est ça qui le rend magique aussi, c'est que ton chemin est tellement unique que tu dois le trouver et cette nécessité de le trouver par toi-même est-ce qu'il va en faire une histoire merveilleuse ? Alors que si tu t'appliques juste une recette de cuisine pour trouver le bonheur,
ouais.
Bah, c'est pas si sexy, quoi.
Et donc, tu crois que ce serait un bon conseil de dire aux gens de partir, d'être seul pour un peu se trouver ce chemin dont tu parles ?
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si tu te plais pas à l'endroit où tu es, ou que tu as l'impression qu'il te manque quelque chose, partir, ça va te confronter à un nombre d'expériences qui est juste incalculable, des trucs très variés dans tous les genres. Et tu vas pouvoir te faire une meilleure idée de ce que tu souhaites, de ce qui te manque, tout simplement. Et voilà, et c'est quelque chose que tu n'auras pas spécialement si tu es dans ta routine.
Vous allez voir, les auditeurs, ceux qui nous écoutent, souvent le voyage est signe de, d'introspection, développement personnel. En tout cas, ça avait été le cas pour moi. Et donc, si vous voulez, s'il vous plaît, revenez en arrière sur les paroles de Mike, parce que moi, j'ai trouvé ça magnifique et je trouve que c'est super important de les intégrer. Et maintenant, du coup, j'aimerais bien qu'on écoute un peu de musique encore pour se détendre, parce que j'adore et qu'on passe un bon moment. Est-ce que la musique que tu veux nous faire écouter, Igor, c'est en rapport avec ton voyage en sac à dos ou pas ?
Oui, carrément. C'est de la musique andine. Donc, c'est une musique qui est un genre de musique qui est très écouté au Pérou.
Ah oui.
Ça me rappelle ces grandes chaînes de montagne à perte de vue.
Ben voilà, ben je te propose de fermer les yeux et de t'imaginer ces grandes chaînes de montagne.
Thank you. Dans cette dernière partie du podcast, vous retrouverez le fameux jeu « Tu préfères » et on terminera en beauté avec le sac à dos. Comme d'habitude, nos invités vous partageront leurs anecdotes les plus folles. Alors restez bien avec nous sur Dynamic One.
Bon, on va passer maintenant au petit jeu. Okay. Je vous avais parlé d'un jeu, ça s'appelle « Tu préfères ». C'est très facile.
Oh, nice.
Je vais vous demander de choisir entre blanc ou noir. Et vous devez, c'est un exemple. Et vous devez répondre le plus rapidement possible. Ok ? Alors, est-ce que vous avez compris ?
Ouais, chacun son tour.
Ouais, je commence avec toi, Mike. Plage ou montagne ?
Montagne.
Asie ou Amérique ?
Asie.
Espagnol ou anglais ?
Anglais.
Auberge de jeunesse ou hôtel ?
Auberge de jeunesse.
Bronzette sur la plage ou gros trekking ?
Gros trekking.
Soit à l'élastique ou cours de cuisine ?
Soit à l'élastique.
Bus ou avion ?
Bus.
Seul ou accompagné ?
Seul.
Partir 2 ou 6 mois ?
6.
Vivre en Belgique ou ailleurs ?
Belgique.
Cuisiner à l'auberge ou aller au restaurant ?
Cuisiner à l'auberge.
Coucher de soleil ou lever de soleil ?
Lever de soleil.
Sucré ou salé le matin ?
Salé.
Grasse mat ou pas grasse mat ?
Quand même grasse mat si je suis honnête.
Sac à dos ou valise ?
Sac à dos.
Mer ou piscine ?
Mer.
Pour ou contre se faire tatouer en voyage ?
Pour, carrément.
T'en as un ?
Non, je voulais, mais j'ai pas trouvé.
Pays chaud ou froid ?
Pays chaud.
Pour se laver, rivière ou douche ?
Rivière.
Suivre un guide du routard ou tout faire au feeling ?
Ah, il y a du bon dans les deux.
Mmh.
Moi, je dirais un routard dans la poche et le feeling comme boussole.
Bien. Tu bronzes ou tu brûles ?
Je bronze, j'ai la chance.
Est-ce que tu as eu la tourista en voyage, oui ou non ?
Ouais, c'est arrivé une fois ou deux.
Sans blague. Rencontrer des locaux ou des internationaux ?
Locaux, à balle.
Pour ou contre les Birkenstock ?
Pour, hein.
Faire la fête ou Netflix ?
Faire la fête.
C'est l'heure ! C'est l'heure de quoi ? Du grand sac à dos, le dossier du voyage en sac à dos. Je t'écoute, Igor. Quelle est ton anecdote de voyage ?
Moi, j'ai décidé de raconter une anecdote qui s'est déroulée en Bolivie. Donc, comme je t'ai dit, j'avais 18 ans, j'étais au Pérou en train de backpacker. J'avais travaillé dans une réserve naturelle dans la jungle.
Ouais.
Et j'arrivais au terme de cette expérience et j'avais encore envie de rester dans la jungle, au contact de la faune, etc. Et j'avais entendu parler par des voyageurs qu'il y avait dans le nord de la Bolivie des dauphins de rivière.
Ah oui, 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 oui.
Et ça, c'est un animal que je trouve complètement mystique et que j'avais absolument envie de voir. Et du coup, je me suis dit, ok, vas-y, c'est mon prochain objectif. Et donc, j'ai pris un bus de Puerto Maldonado, qui était la ville la plus proche de la réserve, jusqu'à La Paz. C'était environ 17 heures de trajet, il me semble. Donc, en général, j'aime bien les trajets en bus. Mm-hmm. Ce qui est un peu challenging, c'est que souvent, tu peux pas faire popo dans les toilettes.
Ouais.
Il y a des popos. Il y a des pancartes, never do poop, please no popo, etc.
Ouais, ouais. Please no popo.
Donc, c'est pas le confort maximal, mais en général, ça va. Donc, je suis arrivé à La Paz, qui est une ville gigantesque, à quasi 4000 mètres d'altitude.
Wow.
Donc, c'était vraiment une grosse différence par rapport à la jungle dans laquelle j'étais terré depuis plusieurs semaines.
Ouais, je sens le truc arriver.
Et j'ai passé une nuit dans un hostel le moins cher que j'ai trouvé. Et en fait, pendant la nuit, j'ai commencé à entendre des coups de feu, etc. Il y avait une fusillade dans la rue de l'hostel. Du coup, je me suis vraiment dit, ok, je vais pas rester à La Paz trop longtemps et je repars vite dans la jungle. Donc, j'ai pris un autre bus de La Paz jusqu'à Rurrenabaque, qui est vraiment une sorte de mini-village dans lequel ils organisent des sortes de trips touristiques pour aller dans la jungle locale et éventuellement voir des dauphins. Et il se trouve que le trajet en bus était extrêmement dangereux. J'en avais aucune idée. Et c'était un trajet de 15 heures sur l'une des routes de la mort, comme on les appelle en Bolivie. En gros, ton bus roule sur des pistes. Ce n'est pas des routes en béton ou quoi que ce soit. C'est des pistes qui sont sur des falaises dans la jungle. Et tu longes un précipice d'une trentaine de mètres de haut avec un énorme torrent.
Mon anxiété vient de monter en flèche.
Ah, voilà. Avec un énorme torrent qui court dans le ravin. Et ça, de base, j'en avais aucune idée. Donc, j'étais dans le bus tranquille, détendu, comme aux autres trajets en bus en Amérique du Sud. Et puis, quand je me suis rendu compte, quand je regardais par la fenêtre, je voyais pas de route, mais juste le vide et le torrent, j'ai commencé à me dire « Ok, c'est chose qui se passe ici. » Et il y a un local qui était devant et qui a dû remarquer que je regardais un peu ce qui se passait. Et il a commencé à me parler et me dire que c'était assez dangereux parce que c'était une route où il y avait beaucoup de glissements de terrain et que ça arrivait pendant la saison des pluies, toutes les semaines, qu'il y avait un bus qui tombait dans cette région-là.
Ok, là, tu te sentais comment ?
Là, je me suis familiarisé avec le concept de la mort pendant environ 15 heures.
J'ai fait le bilan
de ma vie, etc. Et j'étais vraiment pas à l'aise. En plus, le chauffeur était visiblement atteint de handicap. Enfin, il avait une main complètement invalide et un œil borgne.
C'est pas rassurant, quoi.
Ouais, j'ai cru que j'étais cuit. Finalement, je suis quand même arrivé en un morceau là-bas.
Ça fait bien rire, Mike.
Je suis arrivé en un morceau, heureusement. À partir de là, j'ai pris un tuk-tuk et on a croisé une famille de capybara. J'ai envie de le dire parce que c'est marrant, mais c'est le plus gros rongeur du monde et ça pue pendant la nuit et tu sens l'odeur avant de les voir.
Ah ouais ?
Ouais. Et tu vois les énormes machins traverser la route après, c'était drôle.
Wow.
Et donc là, tu sais que t'es dans la jungle.
Ouais.
Et à partir de là, les choses se sont passées à peu près comme prévu. J'ai trouvé une sorte de petite agence qui organisait des voyages vers la zone où se trouvaient les dauphins.
Mais donc là, t'étais arrivé. C'était fini, le trajet mortel.
C'était fini.
Ok.
Donc je suis bien arrivé. Je suis reparti en voiture et en pirogue pendant quelques heures pour rejoindre le spot à dauphins. Et on était dans des sortes de bungalows, comme ça, des petites cabanes de quelques mètres carrés. T'avais juste ton lit et une commode. Et y avait, comme c'était sur la berge d'une rivière, il y avait des caïmans qui vivaient, mais genre autour des cabanes. Mm-hmm. Sous ma cabane, il y avait un énorme caïman. Du coup, j'ai jamais autant vérifié que j'avais bien fermé la porte.
Sans blague, tu m'étonnes.
Mais je pense pas que les caïmans savent ouvrir des portes. Donc, j'avais pas si peur que ça. Et puis, le lendemain, on est parti du coup se balader en pirogue sur la rivière. On a vu plein de singes, des oiseaux, des reptiles, etc. Tout ce qui manquait, c'était ce fameux dauphin de rivière.
Ouais.
Et à un moment, on entend une sorte de pshhh. D'habitude, je fais mieux. Mais c'est un bruit des vents.
C'est le stress.
Ouais, c'est le stress. C'est un bruit des vents de dauphins. Et du coup, il y avait plein de dauphins, genre deux ou trois dauphins de rivière, qui tournaient autour de la pirogue comme ça. Donc j'étais tout fou et j'étais avec trois autres voyageurs. Et là, le guide, qui était un local qui a toujours vécu là, nous a dit « Si vous voulez, vous pouvez aller dans l'eau. »
Oui, et avec les caïmans.
Avec les caïmans, avec les piranhas. On avait vu un anaconda passer par là, etc.
Tranquille.
Donc c'était quand même assez flippant. Les trois mecs qui étaient avec moi n'ont pas voulu y aller. Et moi, je me suis dit « Vas-y, je fais le truc à fond. » Et j'étais dans l'eau. Et là, j'ai passé genre les 30 minutes les plus dingues de ma vie. Avec les dauphins qui nagent à côté. L'eau est super, super trouble. Ouais. En fait, elle est carrément brune. Donc, le dauphin, tu le vois que quand il sort de l'eau, mais parfois il venait super proche. À un moment, il y en a un qui m'a mordu l'orteil. Apparemment, ils font ça. Et voilà. Enfin,
ça veut dire qu'il t'aime bien.
Ça veut dire qu'il m'aime bien.
Oh, c'est magnifique. Ouais, en plus, j'en ai vu aussi en Équateur. C'est tellement bizarre, ces animaux.
C'est super bizarre.
Je m'attendais pas à cette bosse-là.
Ouais.
Ils sont quelle couleur ? Ils sont tout roses, non ?
Ouais, ils sont un peu rosâtres comme ça.
C'est super, c'est fou que t'en aies vu et que t'aies pu nager dedans avec eux et sans te faire manger par les caïmans, quoi, surtout. Ouais.
Mais je pense que ça allait, sinon le mec aurait pas laissé un jeune touriste aller dans l'eau, je pense. Mais...
Ouais, je sais pas, on sait jamais. Hein.
C'était un peu le frisson.
Eh ben, c'est une magnifique anecdote et j'ai vécu l'histoire avec toi. Et j'espère que toi, t'en gardes un beau souvenir.
Ouais, c'est clair. Merci, c'était cool de la partager avec toi.
Ben merci de nous l'avoir partagé. Je suis sûre que tout le monde ça a donné envie à tout le monde de nager avec des dauphins de rivière. Vous verrez. Est-ce que ça a un nom, ça, en fait ?
Ouais, ça a un nom et je suis vraiment le pire biologiste parce que j'aurais dû regarder avant, mais je le sais plus.
Mais moi non plus, je sais plus. J'ai envie de regarder.
Vas-y.
Je regarde vite.
Il y a plusieurs espèces. Hein.
Boto ?
Ouais, le grand boto.
Toi, t'as déjà vu, toi ?
Je n'ai jamais vu un grand boto, malheureusement. Mais ça, oui. Les photos... Ah ouais. Ah.
C'est pas aussi beau qu'un dauphin normal. Hein.
Non, c'est vraiment beaucoup plus moche qu'un dauphin normal. Mais ça vit dans l'eau douce. Du coup, c'est vachement stylé.
Ça se respecte.
Ça se respecte.
Punaise, j'avais oublié à quel point c'était moche.
Oui, bon, bah, ça va.
Vraiment... c'est impressionnant, mais tapez sur Google Images boto, B-O-T-O. Vous allez voir, c'est super impressionnant. Mon petit Mike, j'ai hâte d'écouter ton anecdote pour finir en beauté cet épisode.
Merci déjà de me laisser raconter cette anecdote.
J'aime
beaucoup. Elle a rien de particulier, mais voilà. Donc c'était pendant la deuxième partie de mon voyage. Donc je suis arrivé en Inde et le plan c'était, et ça a été, d'acheter une moto, une Royal Enfield pour ceux qui connaissent, une moto indienne.
Ouais.
Un truc de ouf. Et de rouler avec jusqu'au Népal. Et donc, avec les petits détours, c'est environ 3000 km. Sur les routes indiennes, ça envoie. Et donc, j'ai fait ce trajet. Et donc, j'ai passé la frontière indo-népalaise à un moment. Et là, la route s'est vraiment dégradée. Genre, d'un coup, vraiment violemment. C'était bien sûr parce que c'était la chaîne de montagne l'Himalaya, ce qui est pareil. Ouais. Et du coup, c'est vachement vallonné, vachement bossu comme endroit. Et en plus de ça, la route était en travaux, donc il n'y avait pas de route à proprement parler. C'était concrètement des pierres avec un petit ruisseau qui allait. Et donc, c'était de l'eau et des cailloux. Donc, c'était sportif comme ride.
Ouais.
Mais vachement cool.
Est-ce que tu avais un gros sac à dos à porter en plus?
Ouais, c'est clair.
Oh, la galère. Okay.
Bien sûr, bien sûr. Et donc je suis sur cette route, je passe la nuit dans une auberge. Au matin, je pars vers 7-8 heures pour continuer de rouler. Donc, même route, hein. le chaos, grosso modo. Et j'ai roulé entre 6 et 8 minutes. Et dans une montée, ma chaîne de ma moto a cassé, quoi.
Ah, oh, mais de nouveau, vous jouez trop avec mon anxiété, les gars.
Et donc, ouais, au début, tu comprends pas trop ce qui arrive. Il y a un bruit, puis ça accélère plus. Donc, ok, la moto sur le côté. Je regarde un peu ce qu'il y a. Je vois qu'effectivement, il y a un maillon qui est cassé, donc c'est mort pour avancer. Et il faut savoir que j'avais quitté l'Inde avant, donc ma carte SIM indienne était out. Donc
ouais.
J'avais rien, quoi. J'avais pas moyen de contacter qui que ce soit. Et là, par chance, deux mecs très sympas en scooter s'arrêtent. Et donc, ils parlaient pas vraiment anglais. Bon, une dizaine de mots, quoi. Mais avec le langage international des sourires et des signes, on s'est compris un peu. Ils ont appelé un mécano. J'ai attendu le mécano, ils sont partis, puis ils sont revenus, le mécano était toujours pas là. Ils avaient des poissons dans un sac plastique qu'ils m'ont montré, j'ai fait ok.
Ok, enchanté.
Ça n'a rien à voir avec l'histoire. Je voulais le mentionner aussi. Et après, donc, ils appellent un autre mécano, l'autre mécano arrive, et ils regardent la bécane et tout, ils ont été chercher la pièce. Et pendant ce temps-là, mes potes qui avaient appelé les mécanos se sont posés avec moi. On s'est montré des photos de nos proches, des trucs comme ça. On a fait une partie d'échecs.
Ah, c'était des nouveaux potes, en fait?
Ouais, c'était mes potes.
Génial!
On a passé genre une heure et demie ensemble, quoi. Et ouais, donc on a fait une partie d'échecs que j'ai remportée. Et j'ai gagné un petit sachet de weed népalaise qui est très,
ah,
très
ouais
connu.
Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Je croyais que t'allais dire j'ai gagné un sachet de poisson rouge.
J'aurais adoré.
Et alors, elle est comment, la weed népalaise?
Bah, je l'ai pas goûté, celle-là. Mais à ce qui paraît, c'est très très bon. Enfin, c'est très.
Et pourquoi tu l'as pas goûté si tu l'as gagné?
Mais j'ai préféré l'offrir à quelqu'un. J'ai rencontré quelqu'un dans un voyage plus tard et j'ai trouvé que ça ferait un beau cadeau. Et puis voilà.
Ouais, ça, c'est un sacré cadeau, ouais.
Et donc, je suis reparti de là. Les mécanos avaient réparé ma moto. En fait, non, je suis pas encore parti. C'est pas aussi simple. Donc, les mécanos avaient réparé ma moto, soi-disant. Je regarde le truc. Et je leur dis, les gars, vous êtes sûrs? Ils me disent, ouais, tranquille, tranquille, tranquille. Je leur montre le truc, vous êtes sûrs de ça? Et puis ils se parlent entre eux pendant 15 minutes. Ils changent le truc, ils démontent, ils remontent, etc. Puis là, c'était bon. Et ils m'ont demandé une somme. Ils m'avaient demandé 3500 roupies, je pense. Ce qui correspond à genre 27 euros.
Ouais.
À ce moment, j'étais là, je m'en fous, vous me sortez de l'email.
Évidemment.
je paye, quoi. Et après, j'ai appris, je m'étais fait couiller. J'avais payé environ 10 fois ce qu'il fallait. Pour le travail, mais
ouais, mais bon, chez nous on aurait payé 200 balles, quoi.
Ouais, c'est clair, c'est tant mieux.
Et tu t'étais fait des potes sur le passage,
c'est clair. Et donc j'ai pu atteindre ma destination finale, Katmandou, grâce à ces jeunes garagistes fouqueux.
Et donc, avec une petite pause de 2 heures environ,
exactement.
Moi j'ai eu peur quand t'as dit que ça s'est lâché dans une montée, j'ai cru que t'allais me dire tu t'étais pété la gueule, quoi.
Ah non,
dans la descente,
ça aurait pu.
L'histoire n'est pas si terrible que ça.
Ça va.
Ah si, parce qu'en fait, je crois que je me chierais dessus. Désolée de mon langage, mais moi, si ça m'arrive, je serais pas bien, quoi. Mais on s'en sort toujours parce que les gens, au final, sont géniaux et gentils, profondément gentils.
Ils sont d'une grande aide, surtout les Népalais, franchement. SO les gars, les meilleurs.
Ah ouais, bah, allez au Népal, allez rencontrer des gens et voyager. Quel est votre petit mot de la fin à vous, pour nos auditeurs?
Moi, je dirais, lancez-vous. Si vous avez des projets de voyage, n'hésitez pas, vivez votre propre aventure. Et j'aimerais te dire merci, parce que c'était trop cool de discuter avec toi.
Avec plaisir, ça m'a fait plaisir de vous rencontrer.
Franchement, trop cool d'avoir été invité. Et ouais, voyagez si vous voulez. Si vous voulez pas, voyagez pas. Il n'y a pas de pression, et c'est ça qui est cool aussi. C'est qu'on est libre.
Eh ben, on note tout ça. Et moi, je vous dis à bientôt, les gars. Ciao, ciao.
Et c'était le dernier épisode de Sac à Dos, votre podcast Dynamic One. J'espère que ce podcast vous aura plu et surtout qu'il vous aura aiguillé quant aux différents aspects du voyage en sac à dos. N'hésitez pas à me partager vos avis sur la page Instagram ou Facebook de Dynamic One. En tout cas, moi, j'ai pris énormément de plaisir à réaliser ce tout premier podcast qui portait sur un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Retrouvez-moi tous les mercredis en compagnie de mon amie Jeanne dans Faut qu'on parle, une émission dans laquelle on discute autour de débats de société avec des invités différents chaque semaine. Ça se passe donc tous les mercredis de 18h à 20h sur dynamicone.be et je vous dis à très bientôt.